Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On vous accompagne tout l'été et aujourd'hui, on a décidé de consacrer notre récit à la grande histoire des musiques de films.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Que seraient les films de Jacques Demy sans la musique de Michel Legrand? Que serait Star Wars sans la musique de John Williams? Que serait Il était une fois dans l'Ouest sans la musique d'Ennio Morricone? Et la liste est longue. Cinéma et musique sont intimement liés depuis la naissance du 7e art. Je vous raconte tout ça dans un instant. 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Michel Drucker qui a accepté de partager avec nous ses plus grands souvenirs de cinéma. Lui qui a reçu tant d'acteurs et d'actrices, de réalisateurs, de réalisatrices. Alors par exemple, quel est le film dans lequel il aimerait vivre?
S'il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est La Belle Époque de Nicolas Bedos, qui est une idée géniale. Qui n'a pas souhaité revoir un jour une époque de sa vie avec les mêmes décors, les mêmes voitures, les mêmes musiques, les mêmes fringues? C'est extraordinaire parce que tout est reconstitué.
La Belle Époque de Nicolas Bedos pour la suite du questionnaire de Proust version cinéma de Michel Drucker. Rendez-vous dans une demi-heure. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier. Nous reviendrons notamment sur OSS 117 numéro 3, Alerte Rouge en Afrique Noire. Faut-il aller le voir? Nous débattrons aussi du film de Bas Étage, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et du long métrage d'animation Le Tour du Monde en 80 jours. Peut-être une idée de sortie avec vos enfants pendant ces vacances, on vous dira ça. Voilà pour le programme de votre Clap, que vous retrouvez également en podcast. Clap qui commence donc avec notre récit consacré aux musiques de films.
Europe 1, le récit.
Rappelez-vous, les premiers films étaient muets. Mais déjà, mise en musique. L'objectif était alors double. D'abord, couvrir le bruit du projecteur, et puis fixer l'attention du spectateur alors qu'il n'y avait aucune parole. Déjà, les musiques collent à l'action et aux émotions des personnages. Dans les temps modernes, par exemple, quand Charlie Chaplin trouve une maison pour vivre avec son amoureuse, il se projette, loin de la pauvreté, dans une vie rêvée. Chaplin encore, dans La Ruée vers l'or, cette fois, la scène des petits pains serait-elle aussi culte sans la musique qui va avec? Cette musique qui insuffle toute sa poésie. On l'aura compris, la musique n'est pas là simplement pour accompagner ce qui se passe à l'image, elle participe à l'action. Quand sort le premier Star Wars, par exemple, George Lucas a beau être déjà un as des effets spéciaux, nous en sommes à leur balbutiement en 1973. C'est donc la musique qui porte aussi les combats et les vols d'engins spatiaux. C'est elle qui nous immerge dans le monde intergalactique et nous fait oublier que ces vaisseaux qui nous fascinent sont en fait de petites maquettes.
Je suis ton père.
La musique de Star Wars est d'ailleurs beaucoup plus connue que les films eux-mêmes. Certaines personnes n'en ont pas vu un seul, et pourtant elles sont capables d'identifier la bande originale. C'est aussi le cas pour la musique du Bon, la Brute et le Truand. Je vous mets au défi, qui se souvient de l'intrigue? Alors que cette musique signée Ennio Morricone
se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Ennio Morricone, le maestro, qui est décédé l'année dernière. Pour l'anecdote d'ailleurs, cette musique est devenue une sonnerie de téléphone portable très répandue. Alors à force, certains compositeurs ont même développé une identité qui leur est propre. Peu importe le film qu'ils illustrent, on reconnaît leurs pattes. C'est le cas d'Ennio Morricone et de John Williams dont on vient de parler, mais aussi de compositeurs français. L'un des plus célèbres, c'est bien sûr Vladimir Kosma, à qui l'on doit par exemple la bande originale de La Boom et notamment ce tube interprété par Richard Sanderson.
Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a
mais aussi la musique originale de Rabbi Jacob.
Rabbi Jacob, il va danser.
Mais aussi la BO de La Loulou la cuisse, du Grand Blond avec une chaussure noire, du Père Noël est une ordure, etc., etc. Mais alors, comment écrire des musiques qui reflètent l'âme d'un film? C'est un dosage assez miraculeux, finalement. Vladimir Cosma, dont le papa était chef d'orchestre en Roumanie, nous l'expliquait au micro d'Europe 1.
La mélodie, c'est un miracle. C'est quelque chose qui vous vient d'ailleurs. Ensuite, c'est la construction qu'on fait autour, la recherche d'une couleur. Mais le thème lui-même, c'est le bon Dieu qui vous l'envoie, si je peux dire.
Silence, taisez-vous. Bienvenue à toi, Rabbi Jacob, ô notre maître vénéré, puits de science, luminaire céleste.
Vous avez entendu, ça c'est bien, c'est très bien.
En souvenir de ce grand jour, accepte ce modeste Streim.
Vous savez, les interprètes, c'est peut-être la partie essentielle d'un film. Et quand j'écris la musique du film, d'abord, souvent, j'allais sur le tournage, je voyais les acteurs. Donc j'étais inspiré par leur façon de jouer, par leur personnalité. De Funès, en plus que tous les autres, j'ai travaillé personnellement avec lui pour le Rabbi Jacob dans la danse du rabbin qui a été faite et enregistrée avant le tournage du film. Et tout ce qu'il fait est tellement musical, tellement lié de la musique que je suis sûr qu'il a préparé des choses, mais vous savez, il a fait plusieurs prises pour cette danse là et chaque fois c'était différent.
Ah, monsieur est vraiment très doué.
C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle.
Parfois, un lien très particulier se crée même entre le cinéaste et le compositeur, si bien que les deux deviennent indissociables. Cédric Clapiche, par exemple, ne travaille qu'avec Loïc Durie, que nous recevrons tout à l'heure dans cette émission. Luc Besson a également beaucoup travaillé avec un seul homme, Éric Serra, à qui l'on doit ceci. Le Grand Bleu, César de la meilleure musique en 1989. Alors comment a-t-il imaginé ce son si particulier? Écoutez-le sur Europe 1.
Je voulais un son qui symbolise les dauphins. Or, les sons de dauphins, les vrais sons de dauphins, ne sont pas spécialement musicaux. Ça fait des espèces de petits cliquetis. C'est pas très musical. En revanche, les baleines ont des chants magnifiques. Et j'ai fait ça avec un synthé, j'ai créé un son qui faisait penser au chant de baleine. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire que dès qu'on entend ce son, on l'associe au dauphin. Alors qu'en réalité, ça n'a aucun rapport avec les sons des dauphins. Mais... J'ai reçu un coup de fil de ma maison de disques qui m'appelle pour me dire « Eric, tu viens de rentrer numéro 9 au top album ». Et la semaine suivante, il m'appelle pour me dire que j'étais quatrième. Et la semaine suivante, j'étais numéro un. Le Grand Bleu est resté 6 mois numéro un. Et donc ça, oui, pour moi, c'était les premiers moments où, évidemment, je me suis rendu compte qu'il se passait un truc, ce qui m'était rarement arrivé.
Éric Serra et Luc Besson travailleront ensemble sur Nikita, Le Cinquième Élément, Léon, Jeanne d'Arc, ou encore Adèle Blanc-Sec. Certains petits Frenchies font d'ailleurs un carton outre-Atlantique et Hollywood se les arrache. Alexandre Desplat, par exemple, multi-oscarisé, qui a travaillé avec Wes Anderson, Stephen Frears ou plus récemment sur La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, sorti il y a 4 ans. Avait valu à Alexandre Desplat le deuxième Oscar de sa carrière après un autre glané pour un film de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel. Écoutez-le au micro d'Europe 1.
C'est donc un moment incroyable parce que j'étais nommé quand même avec des grands compositeurs comme John Williams, qui est le grand maestro pour moi. Donc oui, j'étais vraiment très très heureux. Je suis allé voir John, bien sûr. Je suis allé voir avant de passer sur scène. Une minute avant, il m'a dit « Bon, Alexandre, toi qui t'as gagné ce soir, j'ai beaucoup de partition. » À quoi d'autre espérer du maître que j'ai... tant admiré et que j'admire plus de recul.
Mais finalement, qu'est-ce qui fait la réussite d'une musique de film ? Bien souvent, le fait qu'elle reste en tête, et c'est bien souvent dû à son apparente simplicité.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et mon mari tournait les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Cette musique des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy est bien sûr composée par Michel Legrand. Les deux hommes étaient inséparables. Écoutez Michel Legrand parler de la nécessaire simplicité de ces thèmes.
Mais vous savez, c'est quoi la simplicité ? La simplicité, c'est le naturel, je veux dire. Il y a des mélodies qui s'imposent, qui sont naturelles. Moi, je cherche toujours, quand je laisse une mélodie sortir de la maison, je veux qu'elle soit simple ou tordue ou compliquée ou tout ça, mais qu'elle soit naturelle. Bon. Ça vient naturellement. Quand je travaillais avec Jacques Demy, Jacques, il écrivait les textes d'abord. Donc, il me donnait les textes, et sur ces textes, je m'évertuais à trouver des choses originales, marrantes, amusantes, selon les nécessités du film. Et puis donc, j'en faisais une, deux, trois, quatre, j'en faisais des fois 25, 30, 40 différentes. Et puis ensuite, je travaille par élimination. Et puis finalement, il y en a un qui s'impose.
Oh, mais dis-moi le cas. Ça y est, je suis en retard.
Delphine,
oui,
tu vas chercher Boubou ?
Oh, tu veux pas y aller ?
Bah, j'y reste l'après-midi.
Oh, je peux pas sortir avec ça.
Oh, puis si.
Oh, puis non. J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais.
Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là ?
Je ne sais pas, me voir.
Oh, bah, il attendra.
Michel Legrand qui avait poussé un coup de gueule en 2013. Car si la musique est primée aux Oscars et aux Césars, ce n'est pas le cas en festival, à Cannes par exemple.
À chaque fois que je suis venu à un festival de Cannes, et je suis venu souvent, et je déplore toujours ce manque de prisée. Et nous, les musiciens, alors nous, on n'existe pas. On est pauvres fretins. Je voudrais qu'il y ait un prix pour la musique. Ça fait 50 ans que je me bats. À chaque fois que je viens en leur disant le même refrain, ils le feront pas. Les gens me disent « Oh, mais en France, vous avez beaucoup de récompenses. » Je dis « Nul. » En Amérique, oui, j'en ai beaucoup. J'ai 3 Oscars, 9 Grammy. J'ai des récompenses partout, j'en ai plein. Je sais plus où les mettre. En France, rien.
Nous sommes sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux.
Alors pour continuer à parler de ce problème, de comment écrit-on une musique de film, comment le compositeur travaille avec le réalisateur, quelle est sa marge de manœuvre, est-ce qu'il y a des clés ? Eh bien dans un instant, je reçois Loïc Durie qui travaille justement avec Cédric Clapy, je vous le disais, mais aussi sur le générique de la série 10%, c'est lui ! Loïc Durie sera avec nous dans Clap dans un instant, mais d'abord, on va écouter un extrait de la bande originale de La La Land, Another Day of Sun, inspiré justement de Jacques Demy. Vous êtes à l'écoute de Clap et on vous accompagne tout l'été sur Europe 1.
Come along, that'll be the thing to push him on and go.
Et on continue de parler de la musique au cinéma, aujourd'hui dans Clap, des bandes originales de films, parfois plus cultes que les films eux-mêmes d'ailleurs. Et j'accueille maintenant Loïc Dury, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Clap. Alors Loïc Dury, je le disais avant la pause, on vous doit notamment le générique de la série 10%, mais aussi et surtout la musique des films de Cédric Clapiche et d'autres. D'abord, comment on devient compositeur de musique de film ?
D'abord, je trouve c'est l'opportunité de l'existence qui fait ça. J'étais pas du tout, j'étais un passionné de cinéma. J'étais même pas musicien. Moi, je viens de la génération des années 90, qui découvrait les premiers sampleurs et ce genre d'instruments. Et je bidouillais chez moi avec des bouts de musique. Et puis un jour, j'ai rencontré Cédric Clapiche et j'étais conseillé sur un de ses films parce qu'en tant que DJ, il y avait des scènes de fête. Et je l'ai aidé à choisir les morceaux pour que la fête soit crédible pour être une fête de l'an 2000. Et puis il est venu chez moi, il a entendu mes bouts de sample qui tournaient sur mon sampleur, il m'a dit « mais c'est génial, moi j'adore ça, viens fais la musique ». Je lui ai dit « mais t'es fou, faire la musique c'est quand même compliqué ». Et puis il m'a dit « si, si, vas-y lance-toi ». Et puis je me suis lancé, j'ai appelé mon cousin qui était musicien à l'époque, je lui ai dit « viens me donner un coup de main parce que là, moi je suis autodidacte, je connais rien aux notes, aux gammes, voilà, je sais, j'essaye des trucs sur mon ordi et quand ça sonne bien, je suis content ».
Oui, donc vous aviez aucune expérience particulière dans la musique de film, quoi.
Non, aucune. C'est la confiance qui m'a poussé là, et puis on est parti. Le producteur, en fait, on avait branché Screaming Jay Hawkins pour faire une scène, et puis la veille de la scène, le producteur est venu me voir et m'a dit « mais tu sais, avec le cachet de Screaming Jay, moi je peux pas acheter une chanson, je peux pas lui payer un de ses morceaux, donc il faut que tu me fasses un morceau pour Screaming Jay Hawkins ». Alors j'étais là, comment ça, un morceau ? Il m'a dit « oui, pour demain, il me faut un morceau pour Screaming Jay Hawkins ». Donc voilà, du jour au lendemain, j'ai fait une boucle chez moi, j'ai essayé de me prendre pour Screaming Jay Hawkins en écrivant un texte et en le chantant, et le lendemain, je lui ai ramené, et voilà. Et lui, il a pris le texte, il a tout improvisé, il a tout refait, c'était génial, et ça s'est bien passé, et ils m'ont dit « banco, vas-y, fais la musique ».
Alors comment ça se passe justement, pour expliquer à nos auditeurs ? Je sais que vous avez, selon les compositeurs, différentes manières de travailler, mais vous par exemple, est-ce que vous recevez le film et vous composez la musique sur les images ? Est-ce que vous travaillez en amont avec le réalisateur ? Est-ce que c'est lui qui cale ses images sur la musique ? Est-ce que c'est peut-être un mélange de tout ça ?
C'est vraiment un mélange de tout ça. Il y a toutes les situations de figure. Il y a des films sur lesquels j'ai travaillé pendant 2 ans avant qu'ils se fassent. Et puis il y a des films où je suis un pompier, où on m'appelle et on me dit « voilà, le film sort dans 15 jours, il y a 15 jours pour faire la musique ». Donc il y a tous les cas de figure qui s'y prêtent. Avec l'expérience, on change. Quand on est jeune et qu'on commence, la responsabilité, le fait de tout d'un coup qu'on nous commande quelque chose d'aussi fort qu'une musique de film fait que on est en train de faire de coller des musiques sur les images. Et puis petit à petit, avec l'expérience, avec la confiance, avec les inventions qu'on réussit à faire en compagnie des réalisateurs, on se rend compte qu'il faut inventer une musique pour le film en fait. Les images après c'est presque anecdotique. Il faut aller chercher une essence musicale du film.
Ouais, une ambiance sonore en fait.
Oui, c'est une ambiance sonore et puis c'est plus que ça parce que la musique de film, elle dit beaucoup de choses qui ne sont pas dans le film. Il y a un mot savant qu'on utilise dans le cinéma qui est l'univers diégésique. Diégésique, ça veut dire c'est tout ce qu'on ne voit pas à l'image. Quand il y a un personnage de 30 ans qui est à l'image, selon la musique qu'on va mettre, on va dire qu'il écoutait ça quand il avait 15 ans. Donc on comprend que c'était ou un enfant, un premier de la classe, ou que c'était un jeune voyou quand il avait 15 ans. Donc on peut donner beaucoup d'informations avec la musique, avec la culture qu'elle représente, avec les instruments, avec le genre de musique.
Est-ce que justement il y a des éléments constitutifs d'une musique de film, un passage obligé, un type de musique un peu plus électronique ou à l'inverse des choses qu'on s'interdit quand il s'agit d'une bande originale ?
En fait, je vais être sévère, mais c'est la médiocrité qui interdit les choses. C'est la convenance qui interdit les choses. En fait, dans la musique de film, on peut tout faire. On fait des films avec des instruments complètement ethniques qui viennent de l'autre bout du monde et qui font tout d'un coup un thème qui est réaliste pour tout le monde. Donc, l'invention, c'est essentiel. Moi, dans mon travail avec Clapiche, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'essaye pas de reproduire quelque chose qui existe. Il va me donner des bornes et me dire « Ah voilà, là, je sens qu'il y a un peu de musique égyptienne, il y a aussi du blues et puis il y a un peu de Balkan. » Et puis là, on a une espèce de triangle dans lequel on va travailler. Mais malheureusement, beaucoup de travail auquel je suis confronté parfois, on me demande de ressembler, parfois même à mon propre travail, quoi. Donc c'est super énervant où on présente un film que j'ai fait il y a 10 ans en me disant « oui, on voudrait ça ». Mais j'étais là « oui, mais ça, c'était il y a 10 ans et c'était sur tel projet de film ». Donc les gens aujourd'hui ont peur de l'invention. Le marché, la production, les dates, tout d'un coup, on a peur. Oui, il faut rendre avant telle date. Oui, mais Un film, on le maîtrise en musique bien qu'à la fin. Donc c'est normal que ça soit juste avant le mixage de fin qu'on trouve parfois les meilleures idées, même si on est prêt depuis des mois, parce qu'il y a une vérité avec le montage, avec la préparation qui s'avère différente, quoi.
Est-ce que vous dites, quand vous composez une musique de film, elle doit aussi pouvoir s'écouter seule? Parce que je le disais tout à l'heure, il y a des musiques finalement qui sont presque plus connues aujourd'hui que les films eux-mêmes. Quand on travaille, est-ce qu'on se dit ça doit aussi s'autosuffire?
Non, on n'a pas le droit de dire ça. Ça serait prétentieux de ma part de dire ça. Ça serait de l'ego trip de dire ça. Moi, je suis au service du film. Donc, justement, c'est toujours compliqué. Parfois, on nous dit, ouais, mais vous avez fait la musique du film, donc il faut faire un album. À l'époque, c'était au XXe siècle, on faisait des albums quand on faisait des BO, quand on faisait des films. Donc, on disait, mais c'est pas le même travail. On est obligé de reprendre les morceaux parce que là, à un moment donné, il faut que j'enlève tel instrument parce que les fréquences tapent dans la voix du comédien. Donc, musicalement, il va y avoir un trou s'il n'y a pas la voix, alors que dans la scène c'est complètement magique et ça équilibre. Donc parfois on a envie des deux, on a envie aussi de retrouver quel déséquilibre fait que ça marchait dans le film. En France il y a un collectionneur qui s'appelle Stéphane Lerouge qui a beaucoup travaillé pour les BO de films et qui a réédité énormément de travail de compositeurs français, et c'est passionnant parce que on trouve le vrai travail pour le film et puis ce qui a été aussi sur la BO, donc on voit les différences et tout ça. Non, on peut pas penser ça.
Est-ce que vous trouvez que les musiques de films, et même plus largement la place des compositeurs de musique de films, a évolué au fil des années? Parce que finalement, le cinéma a commencé par la musique, puisqu'évidemment, il était muet. Et aujourd'hui, il n'y a pas un film, ou quasiment pas, sans une musique, sans des moments musicaux dans le film. Donc, est-ce que les choses ont beaucoup changé, ou finalement, pas tant que ça?
Elles ont beaucoup changé. Je pense qu'il y a moins de respect. Il y a un rapport à la formule maintenant. J'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on devine à l'avance. Il y a un film qui commence. On commence à entendre la musique des 5 premières minutes. On a compris quelle va être la musique du film. Il y a des espèces de stéréotypes comme ça qui sont reproduits un peu partout. Et ça, c'est inquiétant quand même. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a moins de respect pour la création. On a peur de la création, on a peur de la créativité. Dès que je dis qu'on me demande quelque chose, on voudrait que le lendemain je donne un morceau, quoi. Je dis mais laissez-moi réfléchir une semaine. Tout d'un coup, ça angoisse tout le monde. Donc c'est pas possible. La créativité fait partie du doute, et aujourd'hui, dans le processus de fabrication, le doute fait peur. Donc les producteurs, et nous, on sait que à chaque BO, j'ai douté. Avec chaque réal, à un moment donné, j'ai douté. Ça fait partie du travail. Mais aujourd'hui, on a peur de cette notion-là, donc on va plutôt faire quelque chose de convenu plutôt que de laisser la place au doute qui va permettre la vraie invention. Donc, j'ai l'impression qu'il y a moins de respect quelque part pour la création. La formule, voilà, est plus utilisée. Il y a plus d'emplois de genre, mais il y a moins de mise en danger, quoi.
Et pour finir, vous travaillez sur quel film, là, Loïc Dury ?
En ce moment, je travaille sur une série dont je peux pas encore parler parce que c'est secret, mais je travaille sur une série aujourd'hui, un projet de série, mais qui est issu d'un film de ma filmographie. Donc voilà.
C'est plus excitant les séries que les films, ou c'est pareil finalement, c'est le même genre de travail ?
Non, c'est pareil. Ce qui est excitant, c'est les gens avec qui on travaille. Donc après la série, selon la chaîne avec laquelle on travaille et les compétences auxquelles on a, aujourd'hui on est aussi confronté à des sociétés internationales et des façons américaines de travailler qui sont pas forcément les nôtres. Donc il faut arriver à s'adapter et tout. Donc non, c'est un autre enjeu, c'est différent, c'est un autre enjeu.
Eh ben merci beaucoup en tout cas, Loïc Dury, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Eh ben de rien, bonne journée.
Bonne journée, merci de nous avoir fait partager comme ça ce petit espace de création et de nous avoir expliqué comment on travaille finalement sur une musique de film. Nous, on se retrouve dans un instant, les amis, pour les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Michel Drucker qui a accepté de partager avec nous ses plus grands souvenirs de cinéma. Restez à l'écoute.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1. On en vient à notre questionnaire, les films de ma vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Drucker. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Je signale au passage votre dernier livre qui s'appelle « Ça ira mieux demain ». Ça sort chez Robert Laffont. Bon, je le signale, mais c'est déjà en vente partout et c'est déjà vendu partout. Est-ce que vous êtes prêt pour notre petit questionnaire ?
Oui.
Bon, déjà, Michel Drucker, quel est votre meilleur souvenir en salle, s'il y en a un à retenir ?
Oh, il y en a eu beaucoup. D'abord, le cinéma de Lelouch, qui est un cinéma qui me touche, d'abord parce nous sommes des amis. Et puis, Claude, j'ai connu il y a très très longtemps, au moment de Un homme et des fusils, qui était un bide, juste avant Un homme et une femme. J'ai des souvenirs en salle des films de Claude. L'aventure, c'est l'aventure, évidemment. L'itinéraire d'un enfant gâté. La bonne année. Lino dans La Bonne Année, magnifique.
Voilà, deux mariages, deux divorces. Pourtant, le premier sortait de Polytechnique et le deuxième de Normale Sup.
Et ben, le prochain pour les lois de sortie de prison.
Oh, de toute façon, le mariage tel qu'il existe aujourd'hui est le plus odieux de tous les mensonges. La forme suprême de l'égoïsme. C'est dans quoi, ça, d'elle?
Ah, ça, je sais pas.
Tolstoï, la sonate à Kreutzer. Des formules simples, le bon sens.
Dites-moi, mais vous vivez constamment avec des... je veux dire, avec des intellectuels?
Ah non, pas avec. Disons à côté.
Marquez, c'est très joli quand vous parlez.
J'aime bien quand vous m'écoutez aussi. Vous écoutez très bien. C'est rare.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre, Michel Drucker?
Il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est La Belle Époque de Nicolas Bedos. Ça, pour moi, je... Et d'ailleurs, quand j'étais hospitalisé, il n'y a pas très longtemps, j'ai pensé à ce film, qui est une idée géniale.
Ce qu'il faudrait expliquer à nos auditeurs, mais on peut revivre un moment de sa vie.
Je vais l'expliquer à l'auditeur. C'est Guillaume Canet qui a monté une société qui met à la disposition de quelqu'un la possibilité de revoir une époque de sa vie, La Belle Époque. Et là, c'est donc Daniel Auteuil qui a une belle histoire d'amour avec Fanny Ardant. Et puis, ils vont revivre ça dans les mêmes décors, la même musique. C'est assez extraordinaire. Et quand on traverse ce décor, on s'aperçoit que la société a recréé un autre décor pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, en fonction de votre budget, vous dites, voilà, je voudrais reconstituer ça. Ça coûte combien ? Deux jours, trois jours, quatre jours. Et il le reconstitue. Vous vous souvenez de ce film ? Qui est un film qui a fait un tabac à Cannes, qui a été césarisé. Et Nicolas Bedos a fait un chef-d'œuvre. Parce que La Belle Époque, c'est un chef-d'œuvre. Qui n'a pas souhaité revoir un jour une époque de sa vie avec les mêmes décors, les mêmes voitures, les mêmes musiques, les mêmes fringues, le même contexte de l'époque, quoi. Et là, la reconstitution de l'époque où Daniel Auteuil a rencontré Fanny Ardant et ils se retrouvent, ils vont revivre ça, c'est extraordinaire parce que tout est reconstitué. L'architecture des maisons,
le troquet,
tout. Le café, son père, il revoit son père arriver, je crois que c'est Pierre Arditi, ouais, dans le film. C'est La Belle Époque, c'est un film magnifique.
Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis.
Tu veux plus qu'on dorme ensemble ?
Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi.
Cher monsieur Drummond, notre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps.
Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub.
Concernant l'époque, vous avez une idée ?
Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup.
Est-ce qu'il y a un film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer, Michel Drucker ?
Ah non, non, non. Moi, j'adore Les Tuches. J'adore tous ces films de comédie. Moi, je peux voir n'importe quel film avec Galabru, avec Michel Serrault et Poiret. Et Dieu sait, ils ont tourné des nanars. Hein. Galabru était le premier à dire, voilà, j'ai tourné 300 films, il y a 200 films qui sont des navets. Moi, je peux voir n'importe quel film, s'il y a Poiret, Serrault, Galabru et ou Jouvet, ou d'autres films. S'il y a un film également qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, c'est Ciao Pantin. Ciao Pantin, parce que c'était le Coluche que je connaissais, moi. Moi, j'ai bien connu le Coluche sur la fin. Le Coluche qui était malade psychologiquement. Ciao Pantin, ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué.
C'est toutes des putes.
C'est des femmes comme les autres.
Ouais, c'est des femmes, c'est des putes. L'avantage avec les putes, c'est que tu sais à quoi t'en tenir.
Et ma mère, c'était pas une pute.
Mais qu'est-ce que t'en sais ?
Oh, mais arrête, je le sais.
Oh non, je dis ça, j'ai rien contre les putes. Hein.
Mais alors, qu'est-ce que t'as contre les femmes, alors ?
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami, Michel Drucker ?
Alors, c'est difficile, hein. La Belle Époque, je vous l'ai dit. La Fête, le dernier film avec Bacri.
Le sens de la fête.
Le sens de la fête.
Pourquoi ?
De Toledano.
Et Nakache.
Parce que Bacri était un génie, et puis parce que c'est d'une drôlerie, et c'est très très émouvant. En fait, le film que je conseille à mes amis, c'est un film où on rit et on pleure.
Voilà, donc je vous présente Samy, qui va remplacer Mirko. Donc, Monsieur Angéli, enfin Max.
Alors Adèle m'a dit que vous avez de l'expérience.
Oui, vite fait.
Vite fait, c'est-à-dire ?
Rapide, quoi.
Vous voulez dire dans la restauration rapide ?
Oui, voilà.
Vous savez découper une sole, un loup?
Un loup?
Un turbo?
J'ai des notions mécaniques.
De toute façon, c'est de la viande ce soir.
Ouais, on va dire ça. Tu le mets avec Patrice, il le lâche pas. Rochane, viens avec moi.
Putain, mais t'es abusé, toi, tu connais rien, tu sais même pas que le turbo, c'est du poisson.
Ah ouais, parce que je me disais, quel rapport avec serveur?
Bah, c'est comme la sole et le loup, c'est un poisson.
Le loup, c'est un poisson.
Est-ce qu'il y a un film culte que vous n'avez jamais vu?
Non, mais un film culte que je revois tout le temps, c'est Network de Sidney Lumet, qui est repassé il n'y a pas longtemps, sur la 3, je crois, qui était le premier film qui dénonçait la violence de la télévision commerciale, avec Faye Dunaway. Des Faye Dunaway, j'en connais plein aujourd'hui, qui sont productrices de télévision, notamment qui produisent la télé-réalité. Ça, c'est elle, c'est déjà elle, mais dans ce film de Sidney Lumet, qui a 30 ans, hein. Il y a William Holden, Peter Finch, Robert Duvall. Ça, c'est mon film culte.
Parce que vous, public, et 62 millions d'autres Américains, vous êtes en ce moment devant vos postes parce que moins de 3% d'entre vous lisent des livres. Parce que moins de 15% d'entre vous lisent la presse. Parce que votre seule vérité vous vient de votre poste de TV. À l'heure actuelle, par exemple, toute une nouvelle génération n'a jamais connu autre chose que ce qui lui vient du petit écran. La TV, c'est son évangile. C'est la vérité révélée. Le petit écran peut faire ou défaire président, pape, premier ministre. Oui, la TV, c'est le véhicule le plus terrifiant qui puisse être dans ce monde où Dieu est mort. Et malheur à nous si cette force vient à tomber en de mauvaises mains. Voilà pourquoi malheur à nous tous que soit mort et par Georges Rudy.
Est-ce qu'il y a un dialogue de cinéma que vous connaissez par cœur?
Pas par cœur, mais évidemment, Arletty, Jouvet, évidemment, Les Bronzés, évidemment, les expressions. Tu vois? Il a un problème, le peignoir? Ça, j'aime bien. Ça dépend, ça dépasse, ça m'en vient souvent. Et Woody Allen également. J'ai oublié de vous parler de Woody Allen, parce que Woody Allen, c'est quand même assez étonnant. Non, il y a des dialogues qui reviennent, mais comme tous les Français. Tous les films de Verneuil, tous les dialogues des films, les Tontons Flingueurs, évidemment, les Tontons Flingueurs. Mais il y a comme ça des... Il y a des metteurs en scène qui ont marqué, parce que les dialogues sont devenus des expressions quotidiennes.
Ils sont devenus des expressions populaires, en fait.
Oui, si une scène culte, Itinéraire d'un enfant gâté, Belmondo et Anconina. Hein, Belmondo qui est parti, le petit pompiste, et il lui dit je vais te dire des choses, mais il ne faut pas que tu aies l'air étonné.
Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu ne connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Parce que toi, tu as souvent l'air étonné, ton défaut. On va faire un petit test. Je vais te dire deux, trois choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. T'es prêt?
Oui, monsieur.
Tu sais que ton père est... T'es avec le petit pompiste avant? Tu vois?
Non, mais...
Non, ça doit pas t'étonner.
D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est...
Bah oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner.
D'accord.
Et Anconina est génial. Et la scène a duré, je crois, 18 minutes. Il a laissé tourner. Il a gardé 8. C'est un film culte. Enfin, c'est une scène culte. Tu sais que tu me plais bien? Ah bah non, tu dois pas l'air étonné. C'est que le petit pompiste. Ah non, tu dois pas l'air étonné. Et ça, je peux le voir tout le temps. Moi qui vois beaucoup Jean-Paul Belmondo, qui est un ami... C'est aussi une des scènes qui l'a beaucoup marqué.
Tu sais que tu me plais bien, toi? Ouais.
Mais oui, mais je sais pas si...
C'est ça, la chose étonnante.
C'est gênant, parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou...
Ah non, il est dans le test. Hein,
oui, non, mais vous me dites...
Oui, mais ça devrait pas t'étonner.
Quel est le film qui vous a fait le plus pleurer, Michel Drucker?
La liste de Schindler. Voilà. Spielberg. Ça, d'abord, la bande-son. La bande-son. Je crois que... Gauthier Capuçon et son violoncelle dans son dernier album, il y a la liste de Schindler, en tout cas dans sa compilation, il y a la liste de Schindler, Roberto Benigni, voilà, et puis le film de Polanski sur le ghetto de Varsovie, Stalingrad, tous ces films-là, et puis Nuit et brouillard d'Alain René, en allemand Nacht und Nebel.
Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, Même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Le Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbrück, Dachau furent des noms comme les autres sur les cartes et les guides. Le sang a caillé, les bouches se sont tues. Les blocs ne sont plus visités que par une caméra. Une drôle d'herbe a poussé et recouvert la terre usée par le piétinement des concentrationnaires. Le courant ne passe plus dans les fils électriques. Plus aucun pas que le nôtre.
Et le film qui vous a fait le plus rire ? On avait déjà cité pas mal, mais...
Le film m'a fait
il
le
y en
plus...
a un qui...
Je vais vous dire. Galabru, Mocky, Mocky avec Poiret, avec Serrault. Mais je peux revoir les gendarmes en riant beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si, un hein, des fils de culte que je, quand j'étais petit, c'est Jour de fête de Jacques Tati. C'était un observateur formidable du quotidien. Si Alain Chabat et Bacri, ou Chabat est un chien.
En Didier.
En Didier.
Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas.
Ça, Didier, ça me fait bien marrer. Il y en a beaucoup.
Bon, bien sûr, on la connaît, elle. Mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Bon, on ne sent pas le cul des filles, voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Hein ? Ouais, mais bouiche, bouiche. Tu m'as déjà dit bouiche et puis...
Et pour finir, Michel Drucker, la bande originale qui a le plus marqué votre vie. On parlait de la liste de Schindler.
Liste de Schindler, très important. Oh, il y a des... Il y a des musiques de films formidables. Il y a des musiques de Morricone. Morricone, c'est quand même un génie, hein. Puis alors, oui, tiens, ça fera plaisir à ma fille Stéphanie, qui a les musiques de son père, les musiques de Maurice Jarre et les films de David Lean. Hein? Bon, ça. Laurence d'Arabie, Jivago, tout ça, c'est des grandes musiques. Les musiques de Maurice Jarre dans les films de David Lean sont des grandes, grandes musiques.
Merci beaucoup, voilà. Michel Drucker. On a rebalayé presque toute l'histoire, du cinéma. Oui, vous avez tout improvisé, je le dis bien à nos auditeurs. Je ne vous avais pas prévenu, je ne vous avais pas donné la liste des questions. Ouais. Et je rappelle donc votre dernier livre, ça s'appelle « Ça ira mieux demain » et c'est publié chez Robert Laffont. Merci d'avoir fait un petit détour par le studio de Clap. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant, le temps d'accueillir mes collègues critiques. On va débattre des films sortis en salle mercredi dernier. On vous dira s'il faut aller voir ou non OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. On parlera aussi du polar de bas étage et puis d'un film d'animation, Le Tour du Monde en 80 jours. A tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on se retrouve donc en compagnie de mes critiques préférés, Fabrice Leclerc de Paris Match, Thierry Chaise de Première. Bonjour à tous les deux.
Bonjour,
à notre animateur préféré.
Oh là là, c'est l'été.
On est obligé là.
On est obligé. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs, allez acheter Première, allez acheter Paris Match, voilà, c'est l'été,
et
c'est toujours agréable de feuilleter les magazines sur la plage ou ailleurs. Alors donc, au programme, puisqu'il y a des films qui sont sortis en salle mercredi dernier, nous allons évidemment débattre du nouveau OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Nous allons débattre du film de bas étage, présenté à la quinzaine des réalisateurs au dernier Festival de Cannes. Et puis nous parlerons d'un film d'animation qui s'appelle Le Tour du Monde en 80 jours. Mais on commence donc avec le très attendu OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, réalisé cette fois par Nicolas Bedos et plus par Michel Hazanavicius, mais toujours porté par Jean Dujardin avec un petit nouveau qui s'appelle Pierre Niney.
Josie.
Oui, patron.
Appelez-moi 117. OSS 117.
N'êtes-vous pas le meilleur ?
Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Hubert, que savez-vous de l'Afrique ?
Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien.
Très bonne analyse, Hubert.
Les rebelles veulent balayer le président Bamba.
Sangaré Bamba est un ignoble dictateur. C'est pour ça que j'ai contrepris ce pays en main.
Il y a quand même un hic. Et un hic de taille. Vous êtes une femme. Et une femme présidente.
Voilà, je vous rappelle d'ailleurs que la semaine dernière, on a consacré tout notre récit de clap à la grande histoire de SS 117. Si vous l'avez loupé et que ça vous intéresse, vous le retrouvez en podcast. Mais nous sommes donc 12 ans après sa mission à Rio de Janeiro. Hubert Bonisseur de la Batte est de retour. Dans les années 80, cette fois, il est chargé d'aider un dictateur africain, le président Mamba, soutenu par la France, à éteindre la rébellion communiste. Il y a un petit hic pour OSS 117, c'est que cette fois, il va devoir faire équipe avec le jeune OSS 1001, campé par Pierre Niney. Alors, on est dans l'ambiance de l'époque, Broching, Pat Def, Hélico, on pense au film de Philippe de Broca notamment, mais OSS voit bien que le monde change et que sa parole est moins libre. Par ailleurs, il séduit moins les femmes, il est moins efficace au lit. Voilà, autant d'astuces pour renouveler cette franchise. Je sais que vous n'avez pas été fan, messieurs, je vais même faire l'avocat du diable. Fabrice Leclerc, la parole est à vous. OSS 117. Alerte rouge en Afrique noire.
Écoutez, moi je suis fan ultime des deux premiers, je pense que je les connais quasiment par cœur, je me les repasse parfois quand j'ai pas le moral. Et là j'ai été déçu, pourquoi ? Alors j'ai été déçu parce que moi j'attendais, dans ces deux dernières années qu'on vient de vivre, j'attendais d'OSS qu'ils viennent encore plus politiquement incorrects, qu'ils viennent avec ces vannes encore plus méchantes, encore plus provoques. Et malheureusement, le film n'arrête pas de s'excuser des trois vannes et demie qu'il est en train de faire. Alors on fait une blague sur les Noirs, on s'excuse tout de suite. On fait une blague sur les homos, on s'excuse tout de suite.
Mais parce que c'est aussi l'époque des années 80.
Non mais d'accord, mais OSS, quoi qu'il arrive, OSS doit être transgressif. Et là, on a affaire à une très bonne comédie qui devient plus un buddy movie et un film d'aventure que réellement une comédie. Jean Dujardin est extra, Pierre Niney aussi. Il y a la mise en scène de Bedos, tout va bien. Le problème, c'est pour moi, il y a un gros problème d'écriture et je ne retrouve pas les vacheries d'OSS et le délire contenu d'OSS. C'est une bonne comédie, mais ce n'est pas un bon OSS.
Thierry Chaise.
Oui, je pourrais dire un peu la même chose.
Je sais.
On a eu droit à Tout Simplement Noir il y a quelques temps. Et Tout Simplement Noir, y aller dans le politiquement incorrect. Et moi, je pense qu'en effet, un film qui a autant de budget qu'OSS 117 ne peut pas se permettre un mauvais buzz aujourd'hui. Et donc, même si c'est toujours le même scénariste, hein, toujours Jean-François Alain, donc on ne peut pas dire que ça a été dénaturé. Je pense que l'époque a changé depuis 10 ans. Et qu'on s'auto-censure. Je ne dis pas qu'il y a une censure, je pense qu'il y a une auto-censure. Et alors, c'est vendu dans l'idée qu'on ne va pas faire la même chose que les deux premiers, c'est une autre histoire. En effet, ça l'est avec un personnage d'OSS qui vieillit, cette idée-là marche plutôt. Mais nous, c'est vrai qu'alors peut-être que c'est pavlovien, mais on attend autre chose, en fait. On est déçu par rapport à une attente qu'on a, plus que par rapport au film en lui-même. Et je dois avouer que j'ai plus souri que ri. Et si on demandait là, 4 ou 5 scènes que je retiendrai. Je me souviens de 4 ou 5 scènes du premier, du deuxième, et j'ai déjà oublié 4 ou 5 scènes du troisième.
Exactement. Mais, et donc, pareil. Vous dites quoi aux auditeurs qui ont adoré le premier et le deuxième ? N'y allez pas, vous allez être déçus ?
Non, allez-y. De toute façon, ils iront, quoi qu'on en dise. Mais voilà, il y a une... On est des fans d'OSS comme eux et on a été déçus. Je pense malheureusement qu'ils seront aussi un peu déçus parce que, voilà, le problème d'inspiration, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave.
Mais ça reste quand même, c'est regard. Enfin, il ne faut pas non plus.
Oui, c'est ça. Enfin, dans tout ce qu'on voit dans l'année, il faut quand même. C'est peut-être qu'on avait une exigence aussi.
Et voilà. C'est exactement ça.
OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. On change là encore d'ambiance pour discuter maintenant du film de bas étage. C'était présenté à la quinzaine des réalisateurs au dernier festival de Cannes.
Approche.
Il n'y a pas assez là.
Ouais, t'as fait quoi avec ton oseille ?
J'ai acheté une baraque à la daronne au bled pour sa retraite.
Tu vas pas revenir ?
On y a déjà parlé, j'ai pas envie d'y chez ta mère.
Viens là, je te porte, viens là.
Laisse mon travail entier, dégage.
Alors c'est l'histoire de Soufiane Guerab qui joue Mehdi, la trentaine, expert en ouverture de coffre-fort à la meuleuse. Alors on est loin des grands films américains, hein. C'est des petits larcins, il vit de ça. D'ailleurs il cambriole des petites zones commerciales, on est loin du braquage de casino. Sauf que il y a de moins en moins de cash, que les cambriolages payent moins. Vous rajoutez à cela que la police est sur leur trace et que Mehdi cherche avant tout à reconquérir Sarah, qui est la mère de son fils d'un an. Et vous avez le décor de ce polar, alors, qui a été présenté à Cannes, je le disais. C'est pas le film qu'on a le plus retenu au festival. Mais est-ce qu'il a quand même retenu votre attention, Thierry Chaise ?
Énormément. Moi, j'ai été emballé par ce film, par sa modestie, mais son ambition, mais cette manière de m'embarquer, moi, dans la tête de ce personnage, en fait, dont la première partie de la vie est terminée, mais qu'il ne sait pas. Parce que tout ce qu'il faisait depuis l'adolescence, plus personne ne le suit. Ça marche de moins en moins. Il va essayer de récupérer aussi sa petite amie avec qui il a un enfant, mais qui, elle, n'en peut plus. Qui grandissent, quoi. Et tout ça, c'est une pente très, très lente qui est racontée. Et qui est racontée, c'est un premier film de quelqu'un qui, au départ, est géomètre, qui est venu vraiment au cinéma en étant juré dans un festival à Clermont. Et il apporte, moi, je trouve, beaucoup de cinéma. Il apporte aussi son premier grand rôle à Soufiane Guerab. Si vous avez vu les films de Grand Corps Malade, il était dedans, que je trouve absolument épatant. Souhaila Yacoub, qui joue sa petite amie, aussi. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de tenu, de tendu, et qui fait que j'ai envie de voir ce que va devenir ensuite Yacine Kinea qui a réalisé.
Bon, regarde Fabrice. Fabrice Leclerc.
Écoutez, oui, Soufiane Guerab réellement est un grand acteur. On l'a vu, oui, dans Patient, on l'a vu récemment aussi dans Lupin.
Et c'est vrai qu'il porte
ce film réellement. Grand metteur en scène aussi, je suis tout à fait d'accord. Pour un premier film, c'est posé, ça ne raconte pas la descente aux enfers telle qu'on peut la connaître d'une manière traditionnelle. Il y a vraiment beaucoup d'originalité, de proximité. Il filme la banlieue, il filme la nuit d'une manière très étonnante. Ce personnage pas très fréquentable qui espionne sa femme. Après, moi j'aime bien le film, j'ai un peu un problème d'intérêt sur toute la durée avec la destinée de ce garçon. C'est un film d'ambiance, je ne suis pas sûr que le scénario tienne la route jusqu'à la fin. Pour autant, c'est une vraie découverte et c'est un beau film à aller voir. Et surtout pour Sofiane, je trouve, parce que là, vraiment, grande performance. Ouais.
Si vous voulez aller voir OSS et que la salle est complète, vous pouvez sans hésiter vous comme rebattre vous sur de bas étages. Ou alors, vous êtes avec vos enfants et vous me dites « Bah oui, mais moi, je ne peux pas aller voir ça avec mes enfants. Ah non, j'ai la solution !» Un film d'animation, vous avez vu un peu c'est travaillé cette émission.
Bah tiens.
Un film d'animation qui s'appelle « Le Tour du Monde en 80 jours ».
Jeune Ouistiti qui rêve de parcourir le monde.
Passe-partout !
Qui part jouer les grands explorateurs ?
Non !
Ça m'étonnerait !
Rencontre un explorateur vanneur.
S'ils veulent du chaud, ils vont être servis.
Légèrement arnaqueur.
Je vous parie à toi et à vous autres. C'est trop dégueu que je peux faire le tour du monde en 80 jours.
C'est le début d'une aventure.
Ramenez-moi mon bébé d'amour.
Qui va faire des étincelles.
J'arrive, Fifi, ça sa maman !
Alors, ce petit Ouistiti que vous entendez, il s'appelle Passepartout. Il ne rêve que d'une chose, partir, faire le tour du monde sur les traces de son héros, un explorateur. Sauf que sa maman le couve un petit peu trop, c'est le moins que l'on puisse dire. Il n'imagine pas une seule seconde qu'il puisse la quitter, ne serait-ce que quelques heures. Sauf que débarque dans le village Phileas Frog, lui-même explorateur, un bras arnaqueur et qui lui n'a qu'une idée en tête, battre le record du tour. Comment rigoler.
J'adore. Moi, Phileas Frog, c'est génial. Ça m'a fait tout le film.
Qui veut donc aller battre le retour du monde en 80 jours? Vous me voyez arriver. Il embarque notre petit Ouistiti et ils partent ensemble, traversant jungle, désert, rencontrant des populations plus étranges les unes que les autres. Mais est-ce le film d'animation de l'été, Fabrice Leclerc.
On vous voit arriver, on voit arriver le film aussi un peu quand même. Film d'animation tout à fait traditionnel. On en a vu 40 comme ça. On en verra encore 40, mais ça se regarde avec délice. Voilà, famille, enfants dans une salle. Là, je pense que vous allez prendre votre plaisir. En tout cas, que les enfants prendront leur plaisir. Il y a une animation, il y a une image, il y a un dessin qui est assez particulier.
Pas très beau.
Non.
Alors, voilà, on est très habitué au cinéma de Pixar, à cette image faite par l'ordinateur extrêmement précise et brillante. Là, on est dans une ébauche de dessin, je pense que c'est volontaire. Moi, j'aime bien aussi le cinéma d'animation, quand il épure un peu l'image, qu'on n'est pas dans la technologie, mais qu'on est un peu plus dans le dessin. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus intéressé du film, voyez-vous.
Pourquoi pas.
Avec Phileas Frog.
Thierry Chaise.
Non, mais là, c'est une replongée en enfance. Alors, je trouve que la manière de jouer avec justement l'œuvre de Verne marche plutôt bien. Des petits personnages, voilà, assez délirants. Ça, c'est exactement la bande-annonce. C'est-à-dire que pour le coup, elle ne ment pas. Ça n'est que ça, mais c'est au moins ça. Donc, si vous avez entendu et que vous avez aimé, vous ne serez pas déçus. Après, bon, et puis il y a bon, évidemment, comme dans un truc un peu familial, il y a la relation au père et tout ça. Donc on rajoute quelques couches, hélas, mais quand c'est franchement délirant, je trouve que c'est là que ça marche le mieux. Une fois encore, il faut bien réunir tout le monde, donc il ne faut pas aller trop loin, hein, si jamais, mais sympathique.
Quel âge?
Bon, petit.
Oh, 7-8 ans?
Oh, je dirais même 5-6.
C'est un peu effrayant au début quand même.
Vous savez, les enfants.
Ça, c'est vous.
Les enfants maintenant, oui. Vous êtes resté un grand enfant, c'est pour ça. Allez, rien vous fait peur.
5-6 ans, et s'il y a un problème, vous écrivez à Fabrice Leclerc. À Paris Match, le tour du monde en 80 jours. On a aussi parlé du film de Bas Étage et d'OSS 117. Merci beaucoup Fabrice Leclerc, Thierry Chaise d'être venu dans ce nouveau numéro de Clap. Merci qui continue samedi prochain. On vous parlera du cinéma des frères Fuenquinos. À l'occasion de la sortie de leur nouveau film Les Fantasmes, Clap, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson, et à samedi prochain. Europe 1.